Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir cet épisode de La Loupe diffusé il y a quelques mois. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a 10 ans, si je vous avais parlé de GAFAM, vous n'auriez pas du tout vu de quoi il était question. Mais grâce à La Loupe et à notre spécialiste Michel Feltin-Palas, vous savez désormais que la langue française accepte des mots et des expressions qu'elle rejetait autrefois.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le français évolue, et il évolue parfois à cause de fautes.
C'est ainsi que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont devenus les GAFAM, sans qu'on prenne le temps de les énumérer à chaque fois. En revanche, si je vous parle des SUNAS, vous me dites...
Hein ?
Je viens de l'inventer, c'est normal que vous ne connaissiez pas, donc je détaille. SUNAS, avec un S à la fin, c'est pour Spotify, Uber, Netflix, Airbnb et Stripe. Alors, pas sûr que j'ai le bon ordre des lettres, mais l'idée est là. Dans 10 ans, ce sigle pourrait tout à fait avoir intégré votre vocabulaire. Si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez que c'était mon idée. Parce que la deuxième vague des géants du numérique est là. Elle déferle sur notre quotidien. La troisième se prépare déjà. Et en France, comme partout ailleurs, on s'organise pour ne pas la rater. Bon, je vous ai dit que cette histoire de SUNAS, c'était mon idée. C'est pas tout à fait vrai. Elle m'a été soufflée par Raphaël Bloch du service économie de l'Express. Salut Raphaël.
Salut Xavier.
SUNAS, ça sonne pas mal. On aurait pu aussi faire NASU avec deux S ou SASNU. D'ailleurs, qu'est-ce qui a décidé de l'ordre des lettres pour GAFAM ?
Personne, ça s'est imposé parce que ça sonne plutôt bien. Alors, on parle de GAFAM, mais aussi de GAFA. Et c'est vrai qu'on a rajouté le M à GAFA lorsque Microsoft est vraiment revenu sur le devant de la scène. Sinon, aux États-Unis, il y a d'autres noms pour ces géants de la tech. On parle de Big Four ou Big Five.
Les GAFAM ont donc d'abord été appelés GAFA. Et ça montre qu'il n'y a pas forcément consensus sur les entreprises qu'on fait rentrer dans cette catégorie de géants de la tech les plus importants. C'est un peu comme quand on cherche des champignons rares parmi tous les autres. Il faut bien étudier leurs caractéristiques avant pour savoir si c'en est ou pas. Alors, on va essayer de faire pareil, Raphaël. À quoi on reconnaît un SUNAS dans la forêt des entreprises mondiales ? Comment est-ce que tu as établi la liste ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelques éléments qui permettent de les distinguer parmi toutes les entreprises sur la planète. Le premier, c'est que ce sont toutes des entreprises technologiques. Le deuxième élément, c'est que ce sont des entreprises de dimension mondiale. Que ce soit Airbnb, Netflix ou Uber, sont des entreprises que l'on connaît presque partout sur la planète. Alors, il y a juste une petite exception qui concerne la Chine, parce que voilà, la Chine tient à préserver son marché, donc ces entreprises ne sont pas disponibles sur le territoire de la deuxième économie mondiale. La troisième caractéristique, ce sont des leaders sur leur secteur. Tu prends le cas de Spotify. Aujourd'hui, Spotify compte plus de 200 millions d'abonnés sur la planète. Et puis, la quatrième et dernière caractéristique, c'est la taille de ces entreprises, enfin leur capitalisation en bourse. Ce sont des entreprises qui, pour la plupart, pèsent plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Donc, si je résume, une boîte technologique de dimension mondiale, leader sur son secteur et avec une grosse capitalisation boursière. Je rappelle que les cinq entreprises qui se cachent derrière l'acronyme qu'on a inventé pour cet épisode SUNAS, c'est Spotify, Uber, Netflix, Airbnb et Stripe. Est-ce que c'est vraiment les seuls à cocher tous ces critères ?
Alors non, ce ne sont pas les seuls. Et c'est vrai qu'il y a une entreprise... dont on a énormément parlé en 2021.
Cette commande géante, cette commande historique, elle a fait gagner hier presque 13% à l'action Tesla.
Tesla est un animal un peu particulier parce qu'on ne la classe pas dans la catégorie des GAFAM, même si certains, parce que Tesla a dépassé les 1000 milliards de capitalisation, ont voulu remplacer, mettre le T de Tesla à la place du F de Facebook dans les GAFAM.
Donc GATAM.
Voilà, ça donnerait GATAM. Et en même temps, on ne va pas mettre Tesla parmi nos SUNAS, parce que Tesla remplit finalement tous les critères, sauf peut-être un, c'est le nombre de clients. Alors, Tesla vend de plus en plus de voitures, mais c'est vrai que pour te donner une idée, Tesla en 2021, ça devrait être 750 000 véhicules. C'est beaucoup, ça progresse énormément, mais en même temps, on est encore très loin de ce que vendent les constructeurs traditionnels.
Donc, on va surveiller tout ça. S'il faut ajouter Tesla, ça va compliquer un peu notre sigle. On ferait Sunast, peut-être ?
Ouais, éventuellement.
Ou Tunas.
On trouvera de très bons noms.
On fera un autre épisode là-dessus. Tu évoques des groupes de dimension mondiale et leaders de leur secteur, Raphaël. La plupart sont présentes dans le quotidien de beaucoup de Français. Mais je me mets à la place de nos auditeurs. Il y en a peut-être une qui leur parle pas beaucoup, c'est Stripe.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de Stripe parce que, si tu veux, qui dit développement de l'économie numérique, dit tout bêtement paiement numérique, parce que les entreprises qui voient leur business se développer sur la toile, et ça a été le cas avec la crise sanitaire, les confinements successifs, elles ont besoin de vendre des produits en ligne. Et donc, elles ont besoin d'accepter le paiement de leurs clients, mais c'est du paiement à distance. Donc, il y a des questions de sécurité, de sécurisation de l'envoi des fonds. Et je pense que tu n'es pas sans savoir que y a plein de systèmes de paiement en ligne. Et donc, les entreprises qui veulent accepter tous ces paiements en ligne, elles se retrouvent avec plein d'autoroutes. Tu vois, pour te donner une image, Visa est une autoroute, Mastercard est une autre autoroute. Et c'est vrai que jusque-là, les entreprises étaient un peu seules face à ce champ gigantesque d'autoroutes. Et Stripe est arrivé en disant « ne vous occupez plus de ces autoroutes. Nous, on va servir un peu de rond-point, d'échangeur, et on va se raccorder à toutes ces autoroutes et les amener en fait jusqu'à votre site et permettre à n'importe quel de vos clients partout sur la planète de payer et d'acheter vos produits. Et donc Stripe a développé ce service contre une commission, c'est-à-dire comme des petits péages. Stripe va prélever entre 1 et 3% des paiements, mais c'est vrai que les entreprises et les clients sont prêts à payer cette commission parce que finalement, ça les arrange bien de pouvoir acheter les produits qu'ils souhaitent.
Ça concerne les entreprises, c'est peut-être pour ça que le grand public connaît moins bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Stripe, Raphaël ?
Ouais, aujourd'hui, il y en a plusieurs millions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Stripe s'est lancé, il y a pile 10 ans, c'était en 2011, ils se sont d'abord focalisés sur les PME, enfin les petites entreprises. Et aujourd'hui, ils travaillent avec la PME lyonnaise qui a besoin de vendre des produits en ligne, jusqu'à des groupes comme Amazon et Deliveroo. Et pour donner une idée, en période de pic, Stripe va traiter plus de 10 000 transactions par seconde. Donc, c'est considérable. Et si tu veux, la technologie qu'ils ont développée a attiré les investisseurs. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Stripe pour une raison, c'est qu'elle est considérée comme la plus grosse licorne sur la planète. Alors, une licorne, c'est une société qui n'est pas encore cotée en bourse. La valorisation de Stripe est estimée à 100 milliards de dollars. Il y a une autre société qui est au même niveau, c'est SpaceX, justement une autre société dirigée par Elon Musk. Mais ça donne une idée un peu du poids de Stripe.
Stripe, c'est une société de quelle nationalité ?
Alors, Stripe, c'est une société un peu particulière parce qu'elle a été fondée par deux Irlandais qui tiennent absolument à leurs racines irlandaises. Donc, il y a un siège à Dublin et un autre à San Francisco où ils ont développé une grande partie de leur activité.
Donc, Stripe, une société irlando-américaine. Et il n'a pas échappé à nos auditeurs que la plupart des GAFAM deuxième génération dont nous parlons depuis tout à l'heure vient, comme ceux de la première vague, des États-Unis. Et ça, c'est tout sauf un hasard.
Donc d'un côté, on a quand même un moteur de recherche américain qui draine quasiment 90% de part de marché des requêtes sur le marché français, quand aujourd'hui, Quant fait à peine 1%. Pour être précis, on est à 0,98% des recherches qui sont effectuées directement sur ce moteur.
L'explication est signée Emmanuel Paquette du service économie de l'Express. Je savais bien que je l'avais rangé quelque part dans l'armoire à archives. C'était dans un épisode sur Quant, l'entreprise française qui voulait concurrencer Google, mais qui donc n'y est pas franchement parvenue. Je l'ai ressorti parce qu'il illustre bien à quel point la France et les autres sont arrivés trop tard pour se mesurer aux GAFAM, mais nos SUNAS sont beaucoup plus récentes, Raphaël.
Oui, exactement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous ces géants de la tech appartiennent à l'économie d'Internet. Et donc, la première vague, celle des GAFAM, s'est un peu matérialisée avec ce qu'on a appelé la bulle Internet. Et puis, c'est vrai que là, quand on parle des SUNAS, c'est un peu la deuxième vague, celle qui correspond à une autre crise, celle de 2008, où finalement, ces groupes ont ouvert un nouveau chapitre de l'économie d'Internet avec des services dans de nouveaux secteurs. en France, pour te donner un exemple, quand on prend donc le CAC 40, hein, l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises, bah, si on met de côté les sociétés du luxe comme LVMH ou Hermès, les géants s'appellent plutôt Airbus, Air Liquide, Dassault Systèmes, Orange. Ce sont de très belles entreprises, mais qui sont un peu moins donc concentrées sur les technologies. Puis après, quand on regarde quelles sont justement les possibles pépites françaises, bah, il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'un Blablacar, par exemple, eh bien, ne pèse pas autant que les GAFAM ou les Sunas.
Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de B dans les Sunas, parce qu'eux, ils sont tous américains.
Effectivement, la plupart des entreprises dont nous parlons là sont américaines. Il y a quand même, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, Spotify. Spotify, c'est une société suédoise. Pour le coup, on n'avait aucune société dans la première vague des GAFAM qui était européenne. Là, aujourd'hui, il y en a au moins une. Là, on parle des géants américains. Mais quand on se tourne du côté de l'Asie et notamment de la Chine, eh bien là, il ne manque pas aussi de géants technologiques. Alors, il y a aussi des acronymes pour ces géants. Le plus connu, c'est BATX, B-A-T-X, pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Mmh. Ça, ce sont quatre grosses sociétés, mais il y en a encore plein d'autres comme Ping An ou Didi.
Bon, je retiens BATX à côté de Sunas, mais ces deux réserves suédoises et chinoises mises à part, la deuxième vague des géants de la tech est donc encore très made in USA. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Raphaël ?
Honnêtement, pas grand-chose. Ils ne sont pas plus intelligents que nous en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. On prend un seul exemple, Airbnb. C'est une société qui a été créée par deux jeunes ingénieurs américains sur la côte ouest. L'idée, c'était tout bêtement de développer un algorithme qui permettrait à n'importe qui de mettre en location son logement, à n'importe qui de pouvoir louer. Donc sur le papier, il n'y a rien d'incroyable, sauf que aujourd'hui, les gens utilisent Airbnb sans trop se poser de questions. Et donc, ça montre quand même la force du modèle. Après, une fois qu'on a ça en tête, y a quand même quelques différences majeures entre les États-Unis et l'Europe.
Et lesquelles, justement ?
En gros, les États-Unis ne sont pas seulement la première puissance économique mondiale, c'est quand même aussi un gros marché. Donc, quand on se lance et qu'on a 200 millions de consommateurs, c'est peut-être un peu plus simple que de se lancer en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, on est plutôt aux alentours de 30-40 millions de consommateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a quand même un deuxième point sur lequel on travaille beaucoup à l'Express. On en a déjà parlé dans la loupe, qui est celui du financement. L'économie américaine est basée sur finalement un marché qui permet à la fois via la bourse et via les fonds de capital risque et les fonds d'investissement de financer assez rapidement et massivement les jeunes startups qui se lancent. Ça a été le cas d'un Uber, ça a aussi été le cas de Airbnb. Et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent rapidement à avoir des grosses sociétés. Alors qu'à l'inverse, en Europe, même si les choses évoluent assez rapidement, on n'a pas cette profondeur dans l'investissement. Et donc, les entreprises ont plus de mal à se développer et ont plutôt tendance, même si encore une fois les choses évoluent, à se dire « je vais d'abord me développer en France et être fort en France avant de partir à l'étranger », ce qui, de temps en temps, vous ralentit par rapport à la concurrence internationale. Un exemple qui montre très bien cette différence, c'est celui de Spotify et Deezer. Spotify s'est très vite tourné vers l'international avec des gros financements. Aujourd'hui, c'est le leader mondial, alors qu'à l'inverse, Deezer, qui est une très belle société française, n'a pas réussi à prendre cette vague. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'aller à l'étranger parce que tu retrouves sur ton chemin des concurrents potentiellement asiatiques, américains et ton voisin Spotify.
Pour la deuxième vague, c'est donc d'ores et déjà raté. Il est temps de se demander comment la France et l'Europe peuvent essayer de faire partie de la troisième.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Raphaël, j'ai remarqué que tu jetais des petits coups d'œil à mes chaussures. Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, je les trouve vraiment pas mal.
Merci, je les ai eu pour Noël. Je vais essayer de ne pas les abîmer trop vite, mais on peut revenir au sujet ?
Je te promets qu'on ne s'en éloigne pas là.
Comment ça ?
Quand je regarde tes chaussures neuves, ça me fait penser à Artefact. Artefact, c'est une start-up française qui a tout juste un an. et qui s'est spécialisé dans les objets virtuels qu'on pourrait utiliser sur notre avatar dans le métavers. Et c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, bon bah ça n'a l'air de rien, mais en réalité, cette société est tellement prometteuse qu'elle vient d'être achetée par Nike.
Bienvenue dans votre dressing virtuel, conversion de la garde-robe en cours. Vos baskets sont désormais disponibles.
Ok, donc ça veut dire que quand tout le monde aura des lunettes ou un casque de réalité virtuelle qui permet de se balader dans un métaverse, on a déjà parlé de ça dans un épisode, je pourrai acheter mes baskets préférées, celles que je porte, en version virtuelle.
Exactement. Et surtout, l'un des gros avantages de ce système, c'est que tu pourras donc avoir les mêmes chaussures en version numérique, mais avec un impact environnemental bien inférieur parce qu'on ne sera pas obligé d'aller créer tes chaussures à l'autre bout du monde avec de la matière. En fait, tu pourras simplement changer de style de chaussures en prenant Nike, Adidas ou d'autres marques.
Bon, j'aime beaucoup l'idée, Raphaël, mais je comprends toujours pas vraiment le rapport avec nos vagues de géants de la tech.
Quand je te parle à cette société, c'est une entreprise qui vient de se créer. Tu vois, tout ce qui est métavers, objets numériques, c'est un écosystème, une économie qui est en train de se développer là sous nos yeux. Donc, c'est la preuve que finalement, il y a des vagues successives d'innovation avec donc la première vague des géants de la tech, la deuxième vague, et que donc potentiellement il va y avoir une troisième vague avec de nouveaux géants technologiques et que peut-être un artefact ou d'autres sociétés vont se positionner sur des secteurs innovants.
Mais justement, tu nous as parlé du logement, du paiement en ligne ou de la musique. C'est quoi les prochains terrains de conquête numérique?
Honnêtement, c'est pas forcément évident de te répondre comme ça, même si on voit déjà qu'il y a des secteurs comme la santé, les crypto-monnaies, l'énergie ou le gaming qui sont l'objet de cette troisième vague avec quelques entreprises qui affichent des chiffres assez impressionnants, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de nombre de clients, enfin voilà, de perspectives financières.
Et si toi, Raphaël, tu devais miser sur les entreprises dont on pourra faire un nouvel acronyme quand elles feront partie de la troisième vague, après donc les GAFAM et les SUNAS, tu choisirais lesquels?
Alors spontanément, j'irais du côté d'abord de la finance avec deux acteurs. Le premier, c'est Nubank. C'est un acteur brésilien. Nubank est une néo-banque qui a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Et la particularité de cette société qui vient de ce côté à Wall Street et qui pèse 50 milliards de dollars, c'est qu'elle n'a pas d'agence bancaire, ce qui est une première à l'échelle mondiale pour une banque. La deuxième acteur, et là on revient en Suède, c'est Klarna. Alors Klarna est un acteur un peu particulier, ils font du paiement fractionné et cette activité a explosé depuis le début du confinement. Aujourd'hui, il y a plein de sites, ce qu'on appelle aussi des marketplaces qui permettent à n'importe qui d'acheter un meuble ou des jouets en plusieurs fois. Après, en France, maintenant on a des entreprises qui commencent à peser, mais aussi parce que justement, elle se projette beaucoup plus à l'international. Je pense à Sora, on en a déjà parlé dans la loupe.
C'est cette entreprise qui fait les cartes Panini virtuelles, donc sous forme de NFT, des cartes de footballeurs.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que Sora donc, a levé 680 millions de dollars en septembre, ce qui est la plus grosse levée de l'histoire de la French Tech. Et aujourd'hui, ils ont démarré en France, mais ils sont présents dans plus d'une dizaine de pays, et notamment aux États-Unis. Et c'est aussi le cas de Ledger, qui est donc aussi une société française qui, elle, pour le coup, fait tout ce qui est stockage et protection des cryptoactifs au sens large. Donc, c'est le Bitcoin et d'autres actifs numériques. Et eux, c'est pareil. Assez vite, ils se sont dit, on lève des fonds et on va en Asie et en Amérique du Nord. Et puis, il y a aussi, on en a beaucoup parlé depuis le début de la crise, une entreprise comme Doctolib dans la santé. Donc voilà, moi, ce que je te proposerais même, c'est qu'on invente ensemble là un nouvel acronyme, donc NKSD, pour Nubank, Klarna, Sorare et Doctolib. Après, voilà, on verra si dans 5 ans, ce sera un acronyme valide.
Il faudrait trouver une voyelle parce que NKSD, ça va être compliqué à prononcer.
Ouais, c'est pas évident.
Il reste donc des batailles à mener pour les Européens. Dernière question, Raphaël. On parle depuis le début de ce podcast de cycles de 5 ou 6 lettres maximum. Est-ce que les géants de la tech se développent forcément par grappe?
Non, bien sûr que non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à considérer que ce sont des entreprises qui se font concurrence. Alors qu'en réalité, et ça c'est quelque chose vraiment d'important à avoir en tête, ce sont plutôt des entreprises complémentaires. Et ce qui fait justement qu'il y a des vagues, c'est-à-dire que chaque société va permettre à finalement un autre GAFAM ou un autre SUNAS de développer des services. Et on peut même aller encore plus loin et se dire qu'une vague permet à l'autre de se créer. Je te prends juste un exemple. On parlait tout à l'heure de Spotify ou Netflix. Spotify et Netflix ont pu se développer parce qu'il y avait Apple. Et à l'inverse, Apple profite du développement de ses applications pour vendre encore plus de smartphones. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de complémentarité. Maintenant, on est au début de ces vagues, même si bon, bah, la première a une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que dans les années ou décennies qui viennent, bah, on peut imaginer qu'à un moment donné, on sera peut-être un peu moins dans la coopération et plus dans le combat. Ça a commencé justement avec les GAFAM, où on sait que ce soit Google, Apple ou Facebook, le but à la fin, c'est de retenir tous les clients dans leur écosystème et de leur proposer le plus de services possible. Mmh.
Bon, qu'il s'agisse de groupes qui s'entraident ou qui se font concurrence, Raphaël, on te fera revenir dans la loupe pour analyser toutes les prochaines vagues de GAFAM ou de Sunas, ou
ouais,
de
plaisir.
Ce truc impossible à prononcer.
Ouais.
Comment ça s'appelle déjà ?
NKSD.
NKSD. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Raphaël Bloch du service économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à lire sur notre site internet l'express.fr. Vous pouvez aussi y retrouver nos podcasts, mais pour ne rater aucun épisode, le plus simple, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, par exemple Deezer, Podcast Addict ou Castbox. Et pour nous écrire, je vous rappelle l'adresse laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.